Chers amis, évidemment, cette année a été une année d'événements assez sensationnels, de décisions graves pour ma part, et je dirais pour vous aussi, parce que ça vous en subissez les conséquences, étant donné que vous êtes attaché à la fraternité, à la tradition. Pourquoi en arriver à des décisions aussi graves? C'est que la situation est très grave. Cette situation n'est pas une situation qui date de 20 ans. C'est une situation ancienne. Il y a à l'intérieur de l'Église deux courants qui se sont combattus depuis la Révolution française. Après la Révolution, il y en a qui disaient « mais il faut s'arranger avec les principes de la Révolution. Il faut savoir composer avec les ennemis de l'Église. Il faut s'arranger avec eux. Il ne faut pas toujours être contre, contre, contre. » Et puis, il y avait ceux qui disaient « non, on ne peut pas s'arranger avec les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ou pour ou contre notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même « celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Si on est pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour son règne, on est contre les ennemis de notre Seigneur. Ça va de soi, pas possible autrement. Ah, mais non, mais on peut s'arranger. On n'est pas obligé d'être absolument contre. On n'est pas obligé de parler de notre Seigneur. On peut garder l'amour de notre Seigneur, mais on n'est pas obligé d'en parler toujours. On peut se composer avec les papes. Jusqu'au Concile Vatican II, on dit non. Notre Seigneur est notre roi, notre Seigneur est notre Dieu, il doit régner. Et pas seulement dans notre privé, pas seulement dans notre personne, mais dans nos familles. Et pas seulement dans nos familles, mais dans nos villages. Et pas seulement dans nos villages, mais dans toute la contrée. Parce qu'il est le roi, parce qu'il est le maître. Il le sera un jour, de toute façon. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, un jour, quand il viendra sur les nuées du ciel pour juger le monde entier, tout le monde sera à ses genoux. Les bouddhistes, les musulmans, tout ce que vous voyez, tous ces gens-là, ils sont tous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous le chantons dans le Gloria habituellement, n'est-ce pas? Tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesus Christe. Tu es le seul Très-Haut, tu es le seul Dieu, Jésus-Christ. Eh oui, il est descendu du ciel pour nous sauver. C'est lui qui règne au ciel, nous le verrons bien, lorsque nous mourrons. Alors il y a cette division, vous voyez, qui s'est faite depuis que la Révolution française est déjà avant, avec les protestants, toute cette classe d'intellectuels qui se sont insurgés contre notre Seigneur, il y a eu vraiment un complot diabolique contre le règne de notre Seigneur. On ne voulait plus qu'on entende parler de notre Seigneur. Laissez-nous la paix avec notre Seigneur. Honorez-le dans vos chapelles, honorez-le dans vos sacristies, mais dès que vous sortez, c'est fini, il n'y a plus de notre Seigneur. Plus notre Seigneur dans les tribunaux, plus notre Seigneur dans les écoles, plus notre Seigneur dans les hôpitaux, plus notre Seigneur nulle part. Ça c'est fini, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Parce que vous offensez les juifs, vous offensez les musulmans, vous offensez les bouddhistes avec votre Jésus-Christ, eux ils n'y croient pas. Eh bien laissez-les tranquilles, pourquoi mettre notre Seigneur Jésus-Christ partout? Notre Seigneur il a le droit de régner partout, et puis dans les pays catholiques, il est le maître. Nous devons essayer de leur faire régner le plus possible. Justement, il faut être missionnaire, essayer de convertir ceux qui n'aiment pas notre Seigneur, qui ne le connaissent pas, essayer de les convertir pour qu'ils soient aussi, eux, des sujets de notre Seigneur. Pour que quand ils iront au ciel, eh bien, ils reconnaîtront leur maître. Alors, depuis la Révolution, les catholiques se sont divisés. Parce que les hommes sont libres. Ils sont libres de croire à notre Seigneur ou de ne pas croire à notre Seigneur. Eh bien, ce n'est pas vrai. On n'est pas libre. Mais on a la liberté quand même. On fait ce qu'on veut. On peut croire ce qu'on veut. Non, on ne peut pas croire ce qu'on veut. Notre Seigneur a bien dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien sûr, on peut faire, on peut, mais on fait mal, on désobéit, on s'éloigne de Dieu, si on s'éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, moralement, on ne peut pas, on doit suivre l'enseignement de notre Seigneur et honorer notre Seigneur. Alors, il y a justement, c'est ce qu'on a appelé, vous voyez, les libéraux, ceux qui étaient pour la liberté. Chacun a sa conscience et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On a commencé avec ce qu'on a appelé le libéralisme. Et les papes ont toujours condamné ce libéralisme en disant non, ça n'existe pas, ce libéralisme. On n'a pas la liberté. De même qu'on n'a pas la liberté de faire le bien ou le mal, bien sûr, on peut le faire. On peut désobéir. Un enfant peut désobéir à ses parents, mais est-ce qu'il a le droit de le faire? Bien sûr que non, qu'il n'a pas le droit de le faire. Alors c'est la même chose avec la religion. Il y a une religion, on doit tous obéir à notre Seigneur, à la seule véritable religion. Et bien sûr qu'il y a des gens qui désobéissent, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut essayer de les convertir, essayer de les amener à obéir à notre Seigneur et à être soumis à notre Seigneur, le seul vrai Dieu, celui qui nous jugera tous. Alors il y a ce courant qui s'est développé, voyez-vous, avec des catholiques, comme Lamennais par exemple, un prêtre catholique. Il a dit non, liberté, 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 liberté. Et alors, ça a développé un courant à l'intérieur de l'Église, et l'Église s'est comme divisée. Alors, les papes, le pape Pie IX, le pape Léon XIII, le pape Saint Pie X, et le pape Pie XI, et jusqu'au pape Pie XII, ont toujours condamné ces libéraux. Ils ont dit ce sont les pires ennemis de l'Église. Parce qu'il détache les gens et les familles et les états de notre Seigneur Jésus-Christ. Il les éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il n'y a plus notre Seigneur à l'école, il n'y a plus notre Seigneur dans les hôpitaux, il n'y a plus notre Seigneur dans la justice, il n'y a plus notre Seigneur dans les gouvernements, il n'y a plus notre Seigneur nulle part dans l'ambiance publique, eh bien c'est l'apostasie, c'est l'athéisme. Ça répand vraiment l'oubli de notre Seigneur. Et après, l'oubli de notre Seigneur s'introduit aussi dans les familles. Parce qu'on prend l'habitude de ne plus penser à notre Seigneur. Parce qu'on ne le voit plus nulle part. Actuellement, quels sont encore les restaurants, par exemple, et les hôtels où l'on trouve la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour ma part, je voyage beaucoup, j'ai voyagé beaucoup, eh bien, il n'y a plus qu'en Autriche. Il n'y a plus qu'en Autriche où vous trouvez encore des restaurants, où vous entrez dans le restaurant, il y a une belle croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dans une chambre, il y a encore une belle image de la Sainte Vierge. Ailleurs, c'est fini, 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 fini. Or, avant, il n'y avait pas de maison qui n'avait pas la crucifix dans la maison, que ce soit des maisons, des hôtels, des restaurants, quelles que soient les maisons, il y avait toujours un crucifix, il y avait toujours notre Seigneur, était partout. Fini, ça. Même les catholiques, même de bons catholiques, ont peur de mettre le crucifix. Ils disent, oh, si je mets un crucifix, vous comprenez, il y a des gens, oh, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas la religion chrétienne, etc. Alors, voilà. Et voilà où on en arrive. Alors tout doucement, tout doucement, tout doucement, on éloigne notre Seigneur. Les papes ont été contre ça, n'est-ce pas? Ils ont dit non, 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 il faut que notre Seigneur règne partout. Il faut adorer notre Seigneur, il faut le révérer, il faut qu'il soit partout. Alors il y a une véritable lutte qui s'est introduite à l'intérieur de l'Église. C'est ce que disait Saint Pie X au début du siècle. Il a dit maintenant, les ennemis de l'Église ne sont plus seulement à l'extérieur de l'Église, mais maintenant ils sont à l'intérieur. Et vous voulez désigner ces catholiques-là qui ne veulent plus du règne de notre Seigneur publiquement. Et ils disent maintenant ils sont même dans les séminaires. Alors il disait lui-même, s'il y a de ces professeurs qui sont modernistes, justement, ces gens modernes qui veulent s'adapter au monde moderne, qui veulent s'adapter à l'apostasie du monde moderne, qui veulent s'adapter à l'éloignement de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde moderne, il faut les chasser de vos séminaires, il faut les renvoyer, il ne faut pas les garder dans vos séminaires. Attention, parce qu'ils vont influencer vos séminaristes, puis après ces séminaristes vont être prêtres, et puis ils vont répandre les mauvaises doctrines. Ils ne vont plus être de vrais serviteurs de notre Seigneur. Attention. Et Saint Pie X avait bien raison, parce que c'est précisément ce qui est arrivé. Les évêques n'ont pas voulu faire attention suffisamment, et tout doucement, ces idées modernes, là, se sont introduites à l'intérieur des séminaires, dans le clergé, n'est-ce pas, et partout. Et voilà, apostasie. J'ai apporté ici deux petits livres, vous voyez. Tous les deux datent de l'époque où j'étais personnellement, moi-même, au séminaire à Rome, en 1926. Il y avait une réunion, c'est pas d'aujourd'hui, 1926. Ça fait plus de 60 ans, ça. Il y a eu, justement, du temps de Pion, condamné aussi, n'est-ce pas, tous ces prêtres qui répandaient des doctrines laïques, n'est-ce pas, et qui étaient en faveur du laïcisme. Alors, ils ont fait une semaine à Rome contre le libéralisme. Et il y a eu deux petits livres qui ont paru à cette occasion-là, le livre du père Roussel, « Catholicisme et libéralisme », n'est-ce pas, qui est très très bien fait. Très bien fait, je vous le recommande vivement. C'est un livre simple, ce sont des conférences qu'il a faites. Enfin, je vous lis simplement les premières lignes de son livre, ce sont des conférences qu'il a faites. Ils ont fait une semaine contre le libéralisme. Enfin, introduction. Nous voulons que Jésus-Christ, fils de Dieu et rédempteur des hommes, règne non seulement sur l'individu, mais sur les familles, petites et grandes, sur les nations et l'ordre social tout entier. Telle est la grande pensée qui nous unit spécialement cette semaine. Ça, c'était en 1926, n'est-ce pas d'aujourd'hui? De ce règne social de Jésus roi, règne légitime en soi, nécessaire pour nous, il n'est pas d'adversaire plus redoutable par son astuce, sa ténacité, son influence que le libéralisme moderne. Voyez? Il désigne l'ennemi, ils sont ces libéraux. Ils veulent liberté pour toutes les pensées, liberté de pensée. Chacun sa pensée. Donc, si chacun a droit à sa pensée, il faut que personne n'offense son voisin en affichant sa pensée. Alors, on n'a plus le droit de parler de notre Seigneur, parce que vous gênez votre voisin. Votre voisin, s'il n'est pas pour notre Seigneur, comprenez, vous l'ennuyez si vous parlez de notre Seigneur. Mais alors, comment être missionnaire, alors, si on ne peut pas parler de notre Seigneur? C'est pas possible, ça. Et alors, dans une nation catholique, où 95% des familles sont catholiques, on n'aurait plus le droit de parler de notre Seigneur, parce qu'il y a 5% qui sont juifs, protestants, bouddhistes, musulmans. Invraisemblable. Et c'est comme ça dans les écoles maintenant, les écoles catholiques, parce qu'il y a un juif, parce qu'il y a 2-3 musulmans, parce qu'il y a 2-3 protestants, alors on enlève les crucifix, on ne parle plus de notre Seigneur, on ne fait plus la prière avant les cours. Parce que, vous savez, vous comprenez, ça gênerait le petit musulman qui est là, ça gênerait le petit juif qui est là, vous comprenez, alors faut plus rien. C'est invraisemblable. Alors, notre Seigneur n'a plus le droit d'exister, parce qu'il y en a deux ou trois qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord. C'est ce qu'il met, vous voyez. Il n'est pas d'adversaire plus redoutable par son astuce, sa ténacité, son élan que le libéralisme. Qu'est-ce donc que les libéralismes? Quelles sont ses origines? Ses principales manifestations? Son développement logique, comment le qualifier, le réfuter? Telles sont les questions dont ce rapport voudrait exposer rapidement l'énoncé avec la réponse. Et c'est très très intéressant, c'est des petits livres, c'est peu de choses, mais nous le donnons en main à tous nos séminaristes, et nous l'expliquons, pour qu'ils soient bien au courant de ces erreurs, ces erreurs modernes. Alors ce libéralisme, je dirais, vous voyez, ce laïcisme, cette sécularisation, je dirais, cette absence de dévotion en notre Seigneur, publiquement, s'est répandu, malgré les papes. Les papes ont eu beau parler, tout le temps, recommencer, on ne les a pas écoutés. Les évêques n'ont pas écouté suffisamment, les prêtres n'ont pas écouté suffisamment, et ça s'est répandu, ça s'est développé. Le deuxième petit livre qui a été édité en même temps, à l'occasion de cette semaine aussi, c'est le Catéchisme des droits divins dans l'ordre social. Le Christ, roi des nations, du père Philippe, un père Philippe, rédemptoriste, qui a édité ce petit catéchisme qui est très très bien fait. Très bien fait. Et il dit la même chose. Dans sa petite préface, la semaine catholique au début de 1926, organisée par la Ligue apostolique, nous a confié un désir, celui de posséder un catéchisme exposant le fait et la nature de la royauté de Jésus-Christ. C'est pour répondre à ce désir que paraissent les pages que nous livrons au public sous le titre « Catéchisme des droits divins dans l'ordre social, Jésus-Christ, maître et roi ». Nous disons « Catéchisme des droits divins dans l'ordre social » sous prétexte de suivre les seules lumières de la conscience. On a pris l'habitude d'abandonner à la libre disposition de celle-ci l'accomplissement de tous les devoirs. Les droits de la vérité, et spécialement ceux de la vérité suprême, sont foulés aux pieds. Notre catéchisme demande un grand acte de foi, l'acte de foi en Dieu et en Jésus-Christ intervenant par l'autorité, comme ils interviennent par leur action créatrice dans toute société. Les peuples doivent savoir que dans tous les rapports d'homme à homme, de société à société, de pays à pays, dans tout ce qui constitue l'intime d'une nation, ils dépendent de Dieu et de Jésus-Christ. Sur ce point, comme sur celui de l'existence même de Dieu, il faut que chacun s'incline en redisant de toute son âme « Credo, je crois ». Dieu a béni notre travail. En moins de 6 mois, grâce à la propagande que se sont imposés nos zélateurs, nous avons pu écouler notre première édition. Et maintenant, ils en sont, je ne sais pas combien d'éditions, un petit livre aussi, qui est très bien fait, par questions et réponses, qui est très très bien fait. Tout cela, c'était en 1926, il y a 60 ans. Donc, vous voyez, il y avait déjà des prêtres qui résistaient, et qui disaient, il faut lutter contre l'envahissement de l'apostasie, la sécularisation, la laïcisation de toutes les institutions. C'est ce que disait Léon XIII. Léon XIII, dans son encyclique Humanum Genus, dit « Les francs-maçons ont pour but de déchristianiser toutes les institutions. Tout. Enlever notre Seigneur, voyez. Chasser notre Seigneur de toutes les institutions. » Alors qu'avant, tout était chrétien publiquement, n'est-ce pas? Tout. Dans les tribunaux, il y avait la croix. À l'armée, il y avait la croix de Jésus. Partout, il y avait la crucifix. Notre Seigneur régnait, ben officiellement. Non, c'est fini. Il ne veut plus. Il faut que les sociétés ne connaissent plus notre Seigneur Jésus-Christ. Ne doivent plus connaître la religion chrétienne. Et on est arrivé au Concile Vatican II. Alors là aussi, division. Division à l'intérieur de l'Église. Alors c'est libéraux, ceux qui veulent qu'on ne parle plus de notre Seigneur dans la société, qu'on laisse libre toutes les religions. Eh bien, il y a eu une opposition entre les cardinaux. Avant le concile, vous savez qu'il y avait eu 2 années de préparation du concile. Alors il y a eu une commission, des commissions qui se sont réunies, qui ont été instituées par le Saint-Siège. Et au-dessus de toutes ces commissions particulières, il y en avait une, ce qu'on appelait la commission centrale, préparatoire du concile. Et j'étais membre de cette commission préparatoire des conciles qui a siégé de 60 à 62. Entre 60 et 62, pendant 2 ans, nous avons eu des réunions à Rome, continuelles, n'est-ce pas, avec la présidence du pape, souvent le pape Jean XXIII. Et il y avait 70 cardinaux dans cette commission. Il y avait 20 d'archevêques et d'évêques. Et si j'y étais, c'est parce que j'étais président de l'assemblée des cardinaux et archevêques de l'Afrique occidentale française. Alors, comme président, on m'avait invité à venir à cette réunion de la commission préparatoire du concile. J'étais donc membre de cette commission, et ce concile, ça a été comme un champ de bataille, il faut le dire, un champ de bataille. Qui allait gagner? Les libéraux ou les catholiques? Les vrais catholiques. Ceux qui étaient avec tous les papes qui ont condamné le libéralisme, ou bien les libéraux qui allait emporter les succès. Alors déjà, dans ces réunions préparatoires au concile, il y avait des disputes. Ceux qui voulaient que l'Église, publiquement, dise « Oui, il faut laisser la liberté. Laisser la liberté, il ne faut plus que les sociétés soient attachées à notre Seigneur Jésus-Christ. Elles doivent être neutres. Plus de religion dans les sociétés. » Que la religion soit dans les paroisses, que la religion soit dans les familles, d'accord. Mais publiquement, dans les villages, publiquement, dans les sociétés, non, ça doit être fini. Les autres disaient non, mais non, on ne peut pas faire ça. Alors, oui, mais c'est parce que maintenant, vous savez bien, maintenant, les religions musulmanes, bouddhistes, protestantes s'étendent, Alors, on ne peut pas leur faire du tort, on ne peut pas aller contre elles, on ne peut pas manifester notre religion, etc. Mais eux, ils le font bien. Dans les États protestants, on est protestant publiquement. Dans un canton comme le canton de Vaud, il est marqué dans la Constitution que l'État de canton de Vaud, l'État de Vaud, est protestant. C'est la religion protestante qui est publiquement reconnue. En Suède, en Norvège, en Angleterre, en Hollande, en Danemark, dans tous ces pays-là, c'est publiquement, il est marqué, la religion protestante est la seule religion reconnue publiquement par l'État d'Angleterre, de Suède, de Norvège, du Danemark, etc. et de Hollande. Alors nous, les catholiques, on n'aurait pas le droit d'avoir nos États catholiques aussi. L'État du Valais qui était catholique, qui est catholique, à combien de pourcents ? 90%, je pense. Des vrais Valaisans. Alors l'État du Valais était catholique. Comme ce sont les libéraux qui ont gagné au Concile, il faut bien le dire, alors ce sont eux qui dominent maintenant à Rome, alors ils ont dit plus d'État catholique, c'est fini maintenant. Alors ils ont demandé, par l'intermédiaire du nonce qui est à Berne, à Monseigneur Adam, qui était votre évêque ici, n'est-ce pas, que j'ai bien connu, c'est un bon ami, à Monseigneur Adam, je lui ai dit à Monseigneur Adam, écoutez, il faut maintenant que vous vous débrouillez, dit le nonce de Berne, pour en finir avec l'État catholique du Valais, vous comprenez ? Il est marqué dans la Constitution du Valais, la religion catholique est la seule religion reconnue publiquement par l'État du Valais. C'était le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissez que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi du Valais, en définitive, c'est ça. Eh bien, Monseigneur Adam a fait une lettre. Ceux qui ont vécu cette époque-là, n'est-ce pas, savent bien, il y a de ça une douzaine d'années, 13-15 ans environ. Monseigneur Adam a fait une lettre à tous ses fidèles. Il faut demander à l'État du Valais de supprimer cette phrase dans la Constitution du Valais. Que l'État du Valais soit neutre, qu'il n'ait plus de religion. Plus dire la religion catholique est la seule religion reconnue publiquement par l'État du Valais. Moi, j'étais scandalisé quand j'ai vu ce Monseigneur Adam. Lui qui était pour la tradition, qui était pour le règne de notre Seigneur, qui a combattu dans le Concile pour ça. Et voilà que non, maintenant il fait ça. Oh. Alors on m'a dit, mais c'est le nonce qui lui a demandé ça. Et c'est pas vrai. Je suis allé voir le nonce à Berne. Et je lui ai dit au nonce, mais c'est vrai que c'est vous qui avez dit à Monseigneur Adam de faire une lettre pour qu'on supprime que la religion catholique dans le Valais était la seule religion reconnue publiquement. Oui, c'est moi. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte de dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus dans le Valais. Oh, mais maintenant c'est plus possible, vous comprenez, c'est plus possible. Mais je dis, et les protestants alors, vous allez dire aux protestants de supprimer ça dans le canton de Vaud pour eux, et puis au Danemark, ils ont continué. Alors nous, les catholiques, on n'aurait pas le droit d'avoir des états dans lesquels la religion catholique est la seule religion reconnue publiquement. Oh, c'est plus possible maintenant. Je dis, qu'est-ce que vous faites alors de l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, qui est une magnifique encyclique sur le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, partout, dans tous les états, dans les nations. Oh, le pape ne l'écrirait plus maintenant, il m'a dit. Ah, ben alors, par exemple, alors ça vous allez fort. Le pape n'écrirait plus l'encyclique du pape Pie XI, comme j'ai été témoin en 1925, quand j'étais au séminaire de cette encyclique, c'est donc pas vieux. C'est pas des siècles passés. Au début de ce siècle, le pape Pie XI fait une magnifique encyclique pour dire à tous les évêques, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne partout dans les états. Puis voilà maintenant les évêques qui font des lettres pour dire, il faut pas qu'il règne, il faut qu'il soit neutre, que l'état ne s'occupe plus de religion. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est fini. L'état du Valais n'est plus un état catholique, officiellement. Il n'y a pas de religion. Alors maintenant, ils ne savent pas trop combien de religions ils ont. Alors, ils soutiennent les catholiques, ils reconnaissent quand même les catholiques, reconnaissent comme une société, comme on reconnaîtrait une société bancaire, ou une société n'importe laquelle, société de chasse. L'église protestante, certaines églises protestantes, et puis je crois encore, je me semble qu'il y a trois religions, soi-disant, reconnues officiellement par l'État du Valais maintenant. Reconnues, enfin. Auxquels ils reconnaissent le droit de s'associer, de vivre et d'exister dans le Valais. Alors comment ça s'est passé ça? Eh bien, dans cette commission préparatoire centrale, un jour, le combat, je vous dis, c'était un véritable champ de combat. Un jour, le cardinal Ottaviani et le cardinal Bea nous ont distribué ces petits fascicules, je vous ai apporté. Ils valent leur prix d'or, vous savez ça, leur poids d'or. Hein. Deux fascicules. Voilà les deux camps de l'Église. Ça, c'est la Révolution française. Ça, c'est la tradition catholique. Voilà ce que j'ai reçu, moi, membre de la commission centrale à Rome, là, pour préparer le concile. Un beau jour, on reçoit ces deux petits fascicules. J'en regarde. Ça dit, c'est la tradition de l'Église, c'est la doctrine traditionnelle. Et ça, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ça, c'est le libéralisme. Ça, c'est la Révolution française. Ce sont les idées de la Révolution française. C'est la constitution des droits de l'homme qu'on veut introduire dans l'Église. Ça, c'est pas possible. Mais comment est-ce possible? Et ben, on va bien voir comment ça va se passer dans la séance prochaine, quand ils vont discuter de ça. Ça n'a pas manqué. Ça, c'était le cardinal Ottaviani. Ça, c'est le cardinal Bea, l'allemand. Et ça, le cardinal Ottaviani, préfet de la congrégation de la foi pendant des années et des années, grand ami de Pie XII, un homme extraordinaire, remarquable, défenseur de l'Église, vraiment. Le cardinal Bea, libéral. Alors ils ont fait chacun ça. Et ça s'oppose. Le cardinal Ottaviani dit, oui, que dans les États catholiques, s'il y a des autres religions dans les États catholiques, qu'on les tolère, mais qu'on ne leur donne pas la même liberté que l'Église catholique. De même qu'on tolère les péchés, on tolère l'erreur, parce qu'on ne peut pas expurger toutes les erreurs, on ne peut pas, dans une société, c'est impossible d'expurger tout le monde de ses péchés, n'est-ce pas? Il faut bien avoir une certaine tolérance. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on approuve les péchés. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on approuve le mal. Président du secrétariat de l'unité des chrétiens, et donc il revient au secrétariat de l'unité, n'est-ce pas, de faire un schéma sur ces idées-là. Alors, c'était comme ça. Tous les deux levés, tous les autres assis, on regardait. C'est deux cardinaux qui s'opposent l'un à l'autre, n'est-ce pas. Alors le cardinal Bea, d'ailleurs je suis contre votre schéma, je suis contre la théorie même, contre les principes que vous exposez, je suis contre les principes du cardinal Ottaviani, qui sont les principes de l'Église catholique. L'Église a toujours prêché ça, toujours admis ça. Alors il est contre maintenant, le cardinal Bea, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors il y a le cardinal Ruffini de Palerme, de Sicile, qui s'est levé, et puis qui a dit, ben, nous sommes bien ennuyés de voir que deux de nos confrères dans le cardinalat s'opposent comme ça, n'est-ce pas? Nous sommes obligés de demander à l'autorité supérieure, d'en référer à l'autorité supérieure. L'autorité supérieure, c'est le pape. Et justement, il se trouvait que ce jour-là, le pape n'était pas là. Nous sommes obligés d'en référer au pape. Cardinal Ruffini voulait arrêter un peu ce petit scandale, je dirais, de deux cardinaux qui s'opposaient comme ça violemment vis-à-vis de tous les autres, n'est-ce pas? Mais le cardinal Bea dit, non, non, moi je veux qu'on vote, je veux un vote pour savoir qui est avec moi, qui est avec le cardinal Ottaviani. Alors, bon, on a procédé au vote des 70 cardinaux, et puis des évêques qui étaient là, donc, et les quatre membres, quatre supérieurs d'ordre religieux qui étaient là aussi. Eh bien, ça s'est divisé à peu près moitié-moitié. C'est-à-dire pratiquement tous les cardinaux d'origine latine, si vous voulez, pas italiens, espagnols, sud-américains qui étaient là, ont été pour le cardinal Ottaviani. Et puis les cardinaux, au contraire, américains, anglais, allemands, français, et tout ça, ont été pour le cardinal Bea. Vous voyez? Ça s'est divisé comme ça. Alors, on se trouvait donc devant une Église divisée sur un thème fondamental de l'Église, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur doit-il encore régner sur les nations? Cardinal Ottaviani dit oui, l'autre dit non, parce que c'est plus possible maintenant, voilà, c'est plus possible, il ne faut plus le faire régner. Oh, c'est vraiment scandaleux, se référant à la Révolution française, à la Constitution des droits de l'homme. Et c'était la dernière séance. pensez bien, allons-y, mais qu'est-ce que va être le concile alors? Comment ça va se passer au concile? Si maintenant, sur les 70 cardinaux qui sont là, il y en a moitié qui sont pour la liberté religieuse, cette fameuse chose de la liberté religieuse, du cardinal Béat, et pour le cardinal, ou alors pour la tolérance religieuse du cardinal Ottaviani, la tolérance religieuse, pas la liberté religieuse. Alors, comment ça va se passer au concile? Eh bien, le concile, ça a été aussi la bagarre, ça a été la lutte. Et il faut dire, ben, ce sont les libéraux qui l'ont emporté. Ce sont ceux qui voulaient la sécularisation de la société, qui voulaient que les sociétés soient neutres, qu'elles n'aient plus de religion, qui l'ont emporté. Et alors est venue de cette nouvelle religion, descendant plus de la Révolution française que de la tradition catholique, ben, est venu ce fameux œcuménisme. Comme ils ont nié que le pape pratiquement a pris parti plus pour ceux qui étaient pour la liberté, alors ce sont eux qui ont pris les places à Rome, et ce sont eux qui occupent toujours les places à Rome. Alors comme je me suis toujours opposé à cela, fortement, avec d'autres, enfin grâce à et puis Mgr Castormayer, et puis bien des prêtres, on a dit non, on ne peut pas admettre que toutes les religions soient mises sur le même pied. C'est pas possible. Notre Seigneur est le seul Dieu. Bouddha n'est pas le vrai Dieu. Mahomet n'est pas le vrai Dieu. Et tous ceux qu'ils adorent ne sont pas les vrais dieux. Alors voilà, c'est cela. C'est le libéralisme maintenant qui règne à Rome. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est très triste parce que c'est la démolition de l'Église. L'Église était fondée là-dessus, sur ce principe. Notre Seigneur doit régner, comme le disaient ces deux... Ouais, en 1926, n'est-ce pas, déjà, le pire ennemi de l'Église, c'est le libéralisme. C'est ceux qui disent que toutes les religions se valent. Alors, tandis qu'il faut que ce soit la religion catholique, notre Seigneur, qui règne. Comme il règne au ciel, que ton règne arrive, n'est-ce pas, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, s'il faut que la volonté de notre Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel, il faut qu'elle soit faite partout. Pas seulement dans la famille, partout. Alors il y a vraiment une rupture. Mais nous sommes en communion avec tous les papes, jusqu'au concile. C'est bien simple. Dans ce petit schéma ici, du cardinal Béat, il n'y a pas une seule référence, voyez. Il n'y a pas une seule référence après. Pourquoi? Parce que c'est une chose nouvelle dans l'Église. Ça n'a jamais, ça a toujours été condamné dans l'Église. Ça. Toujours, par les papes. Donc il ne peut pas se référer à un pape en disant « voilà, tel pape a dit ça, donc c'est, je suis avec lui, ça se passe. » Tandis qu'ici, si vous regardez, il y a plus de pages de référence que de textes. Vous avez toutes ces pages ici, tout ça sont des références. Référence au pape, référence au concile, référence à toute la doctrine de l'Église, référence, référence, tout ça. La tolérance religieuse, c'est le titre de son nom, « De tolerantia religiosa ». L'Église prêche la vérité et tolère l'erreur, elle ne peut pas faire autrement, mais elle s'efforce en étant missionnaire de réduire l'erreur, de la ramener à la vérité. Voilà ce qu'a toujours été la foi de l'Église. Mais elle n'a jamais dit qu'on avait aussi bien le droit d'être dans l'erreur que d'être dans la vérité, qu'on avait aussi bien le droit d'être bouddhiste que d'être catholique. C'est impossible, ça. Ou alors la religion catholique n'est plus la seule vraie. Et c'est grave, ça, c'est fondamental. Et ça, je l'ai vécu au concile, vous voyez. Et nous le vivons encore maintenant. Alors, c'est une catastrophe pour l'Église, même dans le Valais. Le fait que dans ce Valais, ici, l'Église catholique ne soit plus la seule religion reconnue, c'est dangereux, vous savez. Si un gouvernement veut un jour, il devient maintenant le maître des religions. Les religions sont soumises à l'État. Tandis qu'avant, c'était plutôt l'État qui était soumis à la religion, en reconnaissant que la religion catholique était la seule religion reconnue. Notre Seigneur régnait, je dirais. Et l'État ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Maintenant qu'il n'y a plus de religion reconnue, les religions sont comme des sociétés, je vous dis, des sociétés privées qui sont à l'intérieur de l'État. Et si l'État veut un jour plus ou moins les supprimer, ou leur supprimer les salaires des prêtres, par exemple, supprimer certaines paroisses ou supprimer certaines choses, il peut le faire. Il est maître maintenant. Comme il empêche, par exemple, certaines sectes de s'installer pour le moment encore dans le Valais. Et bientôt, probablement, vont être accordées aussi des permissions de faire des temples bouddhistes ou des temples, je ne sais trop lesquels, moi, des temples ou des mosquées. Ça viendra, ça. Alors, dans un État catholique. Alors que jusqu'à présent, quand l'État était catholique, l'État disait non, ici, c'est la religion catholique, nous n'admettons pas les autres religions publiquement. Vous pouvez pratiquer votre religion privément, mais pas publiquement. Bon, pas de scandale, parce que c'est un scandale. Scandale, ça attire des chrétiens à rentrer chez les bouddhistes, ou à rentrer chez les musulmans, ou à rentrer à convertir. C'est un scandale. Nous ne voulons pas, nous voulons protéger la foi de nos citoyens. Et puis, il y a l'immoralité qui vient avec ces religions-là, car toutes ces religions-là ont une morale qui est contraire à la morale de l'Église. La polygamie, le divorce, et toutes ces maladies qui sont contraires au mariage chrétien, tout ça, ça vient avec ces religions-là, avec la religion protestante, avec la religion bouddhiste, avec la religion zen, tout ça sont des religions immorales. Alors cette immoralité, eh bien, finit par pénétrer aussi les catholiques si on les laisse se développer. Alors les États, justement, protéger leurs concitoyens en évitant que ces religions-là ne se répandent publiquement, au moins dans les États. Et c'était comme ça dans tous les États catholiques. Alors, or, on a fait supprimer, dans tous les États d'Amérique du Sud, la religion catholique était la seule religion reconnue, en Colombie, au Brésil, au Chili, et partout, dans tous ces pays, n'est-ce pas? On a supprimé cela. C'est Rome qui a insisté pour qu'on laisse la liberté à toutes les religions. Résultat, une invasion de sectes venues d'Amérique du Nord, avec beaucoup de dollars, beaucoup d'argent. Oh, ils sont précipités sur là, alors qu'avant, les États interdisaient la venue de toutes ces sectes pour protéger la foi de leurs concitoyens, pour que l'État reste catholique. Une fois que l'État n'a plus de religion et que l'Église demande que toutes les religions soient admises, les portes ont été ouvertes. C'était une invasion invraisemblable des gens comme Moon et les Adventistes, Témoins de Jéhovah, et tout ça se sont répandus. Maintenant, il y en a partout en Amérique du Sud. À tel point que les évêques eux-mêmes se sont réunis il n'y a pas très longtemps en Amérique du Sud, et ils ont dit, la situation commence à devenir grave, parce que déjà, les uns disent 40 millions, les autres disent 60 millions de catholiques sud-américains sont passés dans les sectes depuis 1968, donc depuis le Concile. Vous voyez le résultat de cette position du cardinal Béat. Ça paraît rien, mais c'est terrible. Voilà les conséquences. L'apostasie de millions de catholiques. Et c'est la même chose partout. En France maintenant, on voit maintenant des catholiques se convertir à l'islam, passer à l'islam, n'est-ce pas, de plus en plus. Passer dans les sectes, ou ne plus croire à rien du tout. Rentrer dans les loges maçonniques, rentrer dans n'importe quelle secte, n'est-ce pas, abominable. Et ici c'est la même chose, ici, surtout dans les villes protestantes, comme de plus en plus, des gens se passent dans les sectes. C'est l'apostasie générale. C'est pour ça que nous résistons et nous voulons résister. Alors, évidemment, actuellement, les autorités romaines voudraient que nous acceptions cela. Et quand j'ai discuté avec elles à Rome, ils voudraient que je reconnaisse la liberté religieuse. Comme le cardinal Bellard, je dis non, je ne peux pas. Ça, c'est contraire à ma foi. La foi catholique, c'est cardinal Ottaviani, pas le cardinal Bellard. Les papes ont toujours condamné cela. Alors, on ne peut pas s'entendre. C'est ce qui fait notre position. Ce n'est pas tant la question, vous savez, de la messe. Bien sûr que la messe est une des conséquences, parce que justement, comme ils ont voulu se rapprocher du protestantisme, alors ils ont transformé la messe, ils ont transformé les sacrements, ils ont transformé le catéchisme et tout ça. Bon, ça c'est très grave, nous n'en voulons pas. Mais la vraie opposition fondamentale, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ doit-il régner ou non sur les sociétés? Eux disent non, nous disons oui. Conformément au pape XI, conformément à ce que les papes ont toujours enseigné, et ce que notre Seigneur aussi a dit, ce que le Saint Paul dit, « O portet illum regnare », il faut qu'il règne. Notre Seigneur est venu pour régner, il n'est pas venu pour être caché dans l'intérieur des maisons et ne pas en sortir. Pourquoi être missionnaire? Pourquoi les missionnaires se sont fait tuer partout, massacrer? Parce qu'ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit aux bouddhistes, vous devez vous convertir, c'est notre Seigneur qui est le vrai Dieu. Ah bon? Bon, ils les ont tués. Allez. Comme ça, hein, vous voulez démolir notre religion? Eh bien, c'est vous qui allez y passer. Et comme ça, mais oui, mais ils n'ont pas hésité à donner leur vie pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, non, il ne faudrait plus prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait dire aux bouddhistes, que votre religion est très bonne, soyez de bons bouddhistes. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Aux musulmans, soyez de bons musulmans. Aux païens, soyez de bons païens, etc. C'est ça que le Seigneur a dit aux apôtres, allez enseigner l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Non, c'est pas possible. Tant que nous sommes dans cette ambiance, voyez-vous, nous ne pouvons pas nous entendre. Alors, il ne faut pas vous étonner s'il n'y a pas d'entente avec Rome. Tant que Rome ne reviendra pas à la foi dans le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, partout, nous ne pouvons pas nous entendre. Tant que Rome donnera l'impression que toutes les religions sont semblables, que toutes les religions sont bonnes, nous ne pouvons pas nous entendre. C'est contraire à notre foi catholique. Et c'est là que nous heurtons, vous voyez. Comme se sont heurtés le cardinal Béat, le cardinal Taviani, comme se sont heurtés tous les papes avec le libéralisme. C'est le même courant, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes divisions à l'intérieur de l'Église. Mais avant, c'était les papes qui gardaient la tradition qui était à Rome. Rome était complètement pour la tradition, était contre le libéralisme, et donc nous soutenait. Maintenant, ce sont les libéraux qui ont pris la place. Évidemment, ils sont contre les traditionnalistes. Nous sommes persécutés, mais nous sommes tranquilles parce que nous sommes en communion avec tous les papes depuis notre Seigneur, depuis ce que notre Seigneur a dit, jusqu'à ses apôtres, tout ce que les apôtres ont dit, tout ce que les papes ont dit, nous sommes avec eux. Nous gardons la foi, cette foi-là. Nous ne voulons pas passer maintenant à la foi des constitutions de l'homme, à la foi révolutionnaire. Nous ne voulons pas être des fils de 89. Nous voulons être des fils de notre Seigneur Jésus-Christ, des fils de l'Évangile. Pour nous, il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion catholique. Quand on mourra, Père Lebouch, il est mort hier, et qu'est-ce qu'il a trouvé au ciel? J'espère bien qu'il y est. C'est notre Seigneur, la Sainte Trinité, la Sainte Vierge, les saints, les martyrs, les apôtres, les disciples de notre Seigneur, tous ceux qui ont été unis à notre Seigneur par leur baptême, par les sacrements, par la foi, c'est tout. Et où sont les bouddhistes? Et où sont les musulmans? Ben, il n'y a pas de bouddhistes, il n'y a pas de musulmans au ciel. S'il y en a, ils se sont convertis, ils sont devenus catholiques. Mais il n'y a pas une mosquée au paradis, il n'y a pas un temple bouddhiste au paradis, voyons. Pas possible, ça. Comment ici-bas, alors, les représentants de l'Église catholique vont dire « Ah, mais si, on peut mettre, il faut laisser libre, tout chacun est libre, on peut mettre toutes les religions ensemble, etc. Enfin, » comme ils font maintenant, des réunions comme assez, tout le monde prie ensemble, etc. C'est abominable, l'abomination. Le jour où notre Seigneur va se fâcher pour ça, eh bien, je vous assure que ce ne sera pas pour rire. Parce que notre Seigneur, s'il a châtier les juifs comme il les a châtiés parce qu'ils n'ont pas voulu croire en lui, il l'a dit, Jérusalem sera rasée, et Jérusalem a été rasée, et le temple n'a jamais été reconstruit depuis, il restera comme ça, dit notre Seigneur. Eh bien, il pourrait bien dire la même chose maintenant avec les tous ces pasteurs qui sont maintenant contre lui, qui ne veulent pas croire non plus en son règne universel. Voilà, voyez-vous, quelques paroles que je vous dis. Je crois qu'il est temps que j'arrête, parce que je vais vous empêcher d'entrer chez vous. Mais il faut rester attaché, vous voyez, à la doctrine de l'Église. Il faut rester attaché à notre Seigneur. Notre Seigneur qui est tout pour nous. C'est lui, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui nous jugera. C'est lui qui jugera tout le monde. Alors, il faut rester attaché à lui. Prier pour que son règne arrive. Et travailler à l'extension de son règne, même si on doit être persécuté. Voilà. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître, c'est comme ça, la situation est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai faite, cette situation. Oui. Pourquoi je me trouve presque seul à défendre, à être contre ce libéralisme, et que maintenant la grande majorité des évêques même de Rome sont pour le libéralisme, c'est un mystère, un grand mystère. Puisqu'avant tous les papes étaient contre le libéralisme et étaient pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà tout à coup que, en continuant ce qu'ont dit les papes, on se trouve presque tout seul. Mais ma foi, même s'il faut être seul, ben, si on est avec notre Seigneur, c'est le principal, si on est avec tout l'enseignement de l'Église pendant 20 siècles, on n'a pas peur, on n'a pas à se faire de soucis, n'est-ce pas? À la grâce de Dieu, pour le reste, ça viendra. Le bon Dieu, lui, connaît l'avenir, il rétablira les choses un jour, pas possible autrement. L'Église ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation-là, c'est pas possible. Alors faisons confiance à la Très Sainte Vierge, faisons confiance à notre Seigneur et ne soyons pas ni découragés, ni soucieux, puisque nous continuons l'Église, nous continuons ce que l'Église a fait. Alors il n'y a pas de problème à se faire, n'est-ce pas? Alors merci bien pour votre attention.
Monseigneur, permettez-moi de vous dire très simplement, mais très cordialement, combien nous sommes heureux de vous saluer ici à Sion, dans la capitale de notre cher Valais, pour la bénédiction de cette chapelle que nous avons voulu bâtir pour maintenir et transmettre la foi catholique que nous avons reçue de nos ancêtres. Si nous vivions une période normale de l'histoire de l'Église, ce n'est pas ici, dans cette humble chapelle, mais en la cathédrale de Sion, que vous auriez été accueillis par les autorités religieuses et civiles de notre petit pays. Vous, l'intrépide missionnaire, autrefois d'Afrique et aujourd'hui du monde entier. Les temps que nous vivons, malheureusement, font que vous apparaissez souvent comme l'évêque rebelle à toute cette révolution post-conciliaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes resté fidèle à ce que vous avez fait durant votre vie missionnaire. Vous n'avez pas changé de religion et vous ne voulez pas maintenant courber devant les fausses religions. Aussi je suis heureux et fier en tant que prêtre de ce diocèse, de saluer en vous l'apôtre courageux des temps difficiles que nous vivons, le missionnaire infatigable, le témoin fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Monseigneur, merci d'être ce que vous êtes, de faire ce que vous faites. Et maintenant, nous vous écoutons tous avec joie et reconnaissance.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le Curé, je vous remercie vivement des paroles aimables et cordiales, accueillantes, que vous avez bien voulu m'adresser. Et je pense que le peuple fidèle qui se trouve ici et qui vous entoure pourrait redire ces paroles à votre sujet. Grâce à votre fidélité à ce qu'on vous a enseigné ici même, dans votre famille, dans votre séminaire, enseigné par l'exemple des évêques, des prêtres qui ont été vos maîtres, qui ont été vos supérieurs, qui ont été vos curés, vous avez continué fidèlement de demeurer fidèle à cet enseignement de l'Église. Nous vous en félicitons aussi. Nous demandons, mon Dieu, de vous accorder longue vie et beaucoup de santé pour continuer votre magnifique apostolat, dont la construction de cette chapelle et l'assemblée ici présente sont des témoignages extraordinaires. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre apostolat, cher Monsieur le Curé. Eh bien, chers frères, ce n'est pas sans une certaine émotion que je viens aujourd'hui dans cette église, c'est-à-dire une église, une nouvelle église de Sion, pas dans une certaine émotion pour le premier motif, parce que vous êtes venus nombreux inaugurer cette chapelle et assister à sa bénédiction, parce que, en bon valaisan catholique, vous voulez vous aussi rester fidèle à la foi qui vous a été transmise par vos ancêtres. J'ai eu l'occasion de connaître un certain nombre de prêtres, de curés du Valais, avant même d'avoir fondé l'école. Et c'était toujours avec étonnement, admiration, que je voyais la foi de ces prêtres et la foi des Valaisans, qui se manifestait par exemple en suivant des retraites de Chabeuil très nombreuses, parce que vous vouliez garder la foi. Et on peut dire que dans toutes les familles du Valais, il y avait des vocations. Vocation de prêtre, vocation de religieux, vocation de religieux, vocation missionnaire. Le pays était vraiment catholique, à tel point que lorsque, comme supérieur général, je demandais à Monseigneur Adam de bien vouloir accueillir dans ses paroisses un prêtre fatigué, un non-prêtre de Pierre du Saint-Esprit, fatigué, qui aurait bien voulu prendre une paroisse, il me répondait « J'ai trop de prêtres, Monseigneur, je ne sais plus où les mettre. Je ne peux pas vous donner une paroisse. » Est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui? Et vous avez voulu manifester l'attachement à votre foi de toujours par la construction de cette chapelle. Magnifique construction, je vous en félicite. Et cela vous honore. Et vous l'avez fait en faisant de grands sacrifices. Je vous en félicite de tout cœur. Et pourtant, quand je dis que ce n'est pas sans émotion que je me trouve ici au milieu de vous aujourd'hui, c'est bien parce que notre cœur est transpercé. Transpercé par la situation d'Église. Quel dommage que Mgr Chéry ne soit pas ici aujourd'hui. Quel dommage qu'il ne reconnaisse pas votre désir de garder la foi. Rien ne saurait être plus agréable pour lui que de savoir que dans son diocèse, il y a de nombreux fidèles qui désirent maintenir la foi toujours. Et qu'est-ce que cela veut dire, maintenir la foi de toujours? Eh bien, cher frère, ça s'exprime par la chapelle elle-même que vous avez construite, voyez-vous. Et c'est ce qui fait la différence de votre chapelle avec les églises qui ont été construites comme cette chapelle autrefois, mais qui ont été transformées et qui n'ont plus la même signification. Pourquoi? Bien simple, regardez ici. Vous avez construit la chapelle tout entière tournée vers l'autel. Et c'est dans le pontifical, lorsque l'évêque fait son instruction au sous-diacre, il dit « Altare Christus est ». L'autel, c'est le Christ. Car en effet, sur l'autel se trouve la pierre d'autel, une pierre d'autel consacrée pour le sacrifice. Et sur cette pierre d'autel, il y a 5 signes de croix, et qui ont été consacrés avec le Saint-Crème par l'évêque, avec des reliques de saints, martyrs, des saints martyrs, ceux qui ont versé leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, insérés, scellés dans la pierre d'autel. Et cela remonte jusqu'après les premiers siècles de persécution de l'Église. C'est Saint Sylvestre qui a dit « Désormais, on ne pourra plus célébrer le Saint-Sacrifice de la Messe autrement que sur une pierre d'autel consacrée, pour bien montrer l'union du sacrifice des martyrs qui ont versé leur sang avec notre Seigneur Jésus-Christ, et pour bien signifier le sacrifice de notre Seigneur, parce que c'est la coutume dans l'humanité d'offrir les sacrifices sur des pierres fondamentales, solides. Alors ce pape, Saint Sylvestre, a décidé que désormais il faudrait une pierre d'autel. Et jusqu'au Concile Vatican II, il a toujours fallu une pierre consacrée pour célébrer sa sacrifice. Si on n'avait plus de pierre consacrée, on ne pouvait pas célébrer la Sainte Messe. Ça pouvait arriver en mission, par exemple, qu'une pierre d'autel vint à se briser par un accident de voyage, eh bien, on ne pouvait plus célébrer la Sainte Messe. Parce qu'il fallait célébrer la Sainte Messe sur une pierre d'autel consacrée. Bien, vous avez dans l'autel, ici, une pierre d'autel consacrée. Où doit se célébrer ce sacrifice? Alors maintenant, nous, les églises transformées, trouver l'unique nappe d'autel qui existe maintenant sur ces autels nouveaux, ces tables, vous verrez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pierre d'autel. Les séminaristes qui étaient avant sont allés un jour visiter le vicariat de Rome, c'est-à-dire les bureaux de l'évêché de Rome, pour demander des pierres d'autel. Et on leur a répondu, oh, ce n'est plus nécessaire maintenant. Voilà un premier changement. Un premier changement important. Parce que la pierre d'autel signifie le sacrifice, justement. C'est sur cette pierre que coule le sang de notre Seigneur, qu'a coulé le sang des martyrs. C'est une signification du sacrifice de la jeunesse. L'autel, la pierre d'autel, le tabernacle, c'est encore Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ présent dans le tabernacle. Quand vous venez pour visiter votre chapelle, vous vous agenouillez, vous faites une génuflexion devant le tabernacle. Parce que vous croyez que Dieu est présent dans le tabernacle. Celui qui vous a créé, celui qui vous jugera, celui avec lequel vous vivrez dans l'éternité, celui qui vous donnera la gloire en éternité. Alors vous vous agenouillez profondément devant lui. C'est encore Jésus-Christ. Et puis, si vous élevez vos yeux un peu plus haut, vous trouvez le Christ, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en effet, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ signifie bien l'acte essentiel qui se passe dans une chapelle catholique, qui est le sacrifice de la messe, le sacrifice de la croix renouvelée. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire d'avoir un crucifix au-dessus de l'autel. Et ce crucifix est entouré des cierges. Des cierges qui signifient encore notre Seigneur Jésus-Christ. Ego sum lux mundi, je suis la lumière du monde. Et ces cierges sont la lumière. Et ces cierges chauffent, brûlent. Et il a dit, je suis venu apporter le feu sur la terre. Niem benimiter in terra, je suis abonné le feu de la charité. Voilà le symbole que signifient ces cierges allumés autour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente la lumière du monde et le feu de l'Esprit Saint qui doit embraser nos âmes. Quelle magnifique chose! Et cela pendant des siècles, des générations, des générations, des générations, se sont sanctifiés à cette pensée et se sont sanctifiés en recevant après le sacrifice de la messe, au cours du sacrifice de la messe, la Sainte Communion, en recevant Jésus-Christ aussi. Par conséquent, dans nos chapelles catholiques, voyez-vous, tout est tourné vers Jésus-Christ. Jésus-Christ. Rien d'autre que Jésus-Christ. Et justement, se trouve qu'aujourd'hui, voyez, l'Évangile nous montre ça d'une façon magnifique. Des foules dans la Palestine, poursuivait notre Seigneur Jésus-Christ. Allez à la recherche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il traversait le lac pour être un peu libéré des foules qui l'entouraient, de tous les malades qui lui étaient apportés pour le guérir. Les foules abandonnaient leur village, traversaient le lac derrière lui et allaient avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tiré les foules. Et c'est pas étonnant. Il était Dieu. Et pour les récompenser, regardez-le, peut-être un des plus beaux miracles, un des plus grands miracles que notre Seigneur ait fait. De quelques pains, de quelques poissons, notre Seigneur a nourri 5000 personnes. Manifestant par là qu'il est le créateur de toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ est le créateur. Il pouvait multiplier les pains, multiplier les poissons sans problème, comme il a multiplié les étoiles du ciel, comme il a multiplié les astres dans le monde. Pas plus difficile pour lui. Comme il multiplie les grains de blé qui poussent dans les champs. Voilà, et ça, notre Seigneur Jésus, Dieu, prêtre, roi et notre sauveur. Voilà ce que nous pensons, notre Seigneur Jésus. Et nous ne voulons pas changer. Et nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu et nous professons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous professons qu'il est le seul sauveur, le seul Dieu, le seul prêtre, le seul roi. Voilà. Voilà la foi catholique. Et c'est ce que vous professez ici en venant assister à ce saint sacrifice de la messe et en recevant Jésus-Christ dans votre cœur. Et c'est pourquoi vous n'hésitez pas à vous agenouiller avec un profond respect devant votre Créateur pour le recevoir dans votre cœur, celui qui vous donnera un jour la gloire du paradis, si vous gardez ses commandements. Voilà la foi catholique. Eh bien, il faut le dire, on l'a changé. On l'a changé. Pourquoi ? Pour, soi-disant, nous rapprocher de ceux qui n'ont pas notre foi. Mais vous voyez le grand danger. Vouloir modifier ce qui fait notre foi catholique pour pouvoir nous approcher de ceux qui ne sont pas catholiques. Mais si nous nous approchons de ceux qui ne sont pas catholiques en abandonnant ce qui fait l'essentiel de notre foi, ben nous devenons comme ceux vers lesquels nous voulons nous approcher. On veut s'approcher des protestants. Et alors, on abandonne l'autel représentant vraiment le sacrifice de notre Seigneur. On ne sait plus où mettre le tabernacle. Le prêtre tourne de dos au tabernacle. Le crucifix, on ne sait plus où le mettre non plus. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Les cierges sur l'autel n'entoure plus le Christ. On ne sait pas ce qu'il signifie. Tout cela, c'est un détournement complet. Le prêtre, au lieu de regarder le Christ et d'entraîner tous les fidèles vers le Christ en le regardant, en montant à l'autel, en montant vers le ciel, entraînant ses fidèles vers le ciel à travers notre Seigneur Jésus-Christ qui est la voie, la vie, maintenant, il se tourne vers l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui devient l'objet principal de la réunion dominicale, alors que pour les catholiques, ce qui est essentiel, c'est Jésus-Christ. Vous venez ici, non pas pour regarder le prêtre, mais pour vous unir à notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que le prêtre est l'intermédiaire entre Jésus-Christ et vous-même. C'est ça, pour catholique. Alors, voyons-nous nos autels dans les églises que vos ancêtres ont construit, sont complètement dénaturés. On a changé d'autel, il n'y a plus de pierre d'autel, on ne sait plus où mettre le crucifix, et la communion est reçue dans quelles conditions? Debout, dans la main, est-ce que c'est là encore le respect qu'on doit avoir pour celui qui nous a créés, celui qui est notre Dieu, celui qui jugera le monde, celui qui a jeté les mondes dans l'espace? C'est un renversement. Tout cela dans le but de nous rapprocher des protestants. Mais pratiquement, ce sont les catholiques qui deviennent protestants, les protestants ne deviennent pas catholiques. Et c'est là très grave. Parce que, pourquoi ? On a pris comme principe qu'il fallait donner le même droit de cité, la même place maintenant, désormais, dans la société, à ceux qui ont la vraie foi et à ceux qui n'ont pas la vraie foi, à ceux qui sont morts. Il faut donner l'égalité, pas de distinction. La même place à ceux qui s'efforcent de pratiquer les commandements du bon Dieu, d'être dans la vertu, de pratiquer la vertu, et à ceux qui sont pécheurs publics. Qu'on soit pécheur public ou qu'on cherche à pratiquer la vertu, on a désormais les mêmes privilèges, les mêmes droits, le même respect, les mêmes considérations. Et cela n'a jamais été dans l'Église catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, est exactement le contraire de l'erreur. Et c'est pourquoi il a toujours reproché violemment aux scribes et aux pharisiens, « Vous ne croyez pas en moi, croyez en moi. » Or, notre Seigneur demandait la foi. Il avait le droit de demander le Dieu, et il demandait toujours à ceux qu'il guérissait, « Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez dans le Christ? Qui est le Christ ?»« C'est moi-même, disait notre Seigneur. » Et alors, le malade adorait notre Seigneur et disait « Oui, je crois. » Notre Seigneur le guérissait. C'est la foi catholique. Alors voyons nos autels dans les églises que vos ancêtres ont construites. Ils sont complètement dénaturés. On a changé l'autel, il n'y a plus de pierre d'autel, on ne sait plus où mettre le crucifix, et la communion est reçue dans quelles conditions? Debout, dans la main, est-ce que c'est là encore le respect qu'on doit avoir pour celui qui nous a créés, celui qui est notre Dieu, celui qui jugera le monde, celui qui a jeté les mondes dans l'espace? Impossible. C'est un renversement. Tout cela dans le but de nous rapprocher des protestants. Mais pratiquement, ce sont les catholiques qui deviennent protestants, les protestants ne deviennent pas catholiques. Et c'est là très grave. Parce que, pourquoi? On a pris comme principe qu'il fallait donner le même droit de cité, la même place maintenant, désormais, dans la société, à ceux qui ont la vraie foi et à ceux qui n'ont pas la vraie foi, à ceux qui sont morts. Il faut donner l'égalité, pas de distinction. La même place à ceux qui s'efforcent de pratiquer les commandements du bon Dieu, d'être dans la vertu, de pratiquer la vertu, et à ceux qui sont pécheurs publics. Qu'on soit pécheur public ou qu'on cherche à pratiquer la vertu, on a désormais le même privilège, le même droit, le même respect, les mêmes considérations. Et cela n'a jamais été dans l'Église catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, est exactement le contraire de l'erreur. Et c'est pourquoi il a toujours reproché violemment aux scribes et aux pharisiens, « Vous ne croyez pas en moi, croyez en moi. » Or, notre Seigneur demandait la foi. Il avait le droit de demander le Dieu. Et il demandait toujours à ceux qu'il guérissait, « Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez dans le Christ? Qui est le Christ ?»« C'est moi-même, disait notre Seigneur. » Et alors, le malade adorait notre Seigneur et disait, « Oui, je crois. » Notre Seigneur le guérissait. Les pharisiens en montant s'opposaient, ne voulaient pas. Ils disaient, « Non, vous venez de Satan. C'est Satan qui vous inspire. » Le Seigneur dit, si c'est Satan qui m'inspire, alors Satan est divisé contre lui, un royaume ne peut pas tenir s'il est divisé en lui-même. Non, je n'ai pas de Satan, je suis Dieu, je suis celui qui est. Et ils ont pris des pierres pour le lapider. Et voilà. Et on ne peut pas, notre Seigneur a toujours été contre l'erreur, instinctivement. De même contre le péché. Hier, nous étions l'épisode de la femme adultère. Vous vous souvenez bien de cet épisode, la femme adultère est emmenée par les pharisiens à l'esprit, ils me disent, elle doit être lapidée. Qu'est-ce que vous dites-vous? Le Seigneur ne dit rien, laisse faire. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Le Seigneur continue à faire des dessins sur le sable, et puis ils s'en vont les uns après les autres, parce qu'ils disent, j'ai bien peur qu'ils révèlent les péchés que j'ai faits, et ils s'éloignent tous. Et notre Seigneur se trouve seul avec la femme adultère. Et elle lui dit, bien, où sont-ils tous ceux qui t'accusaient? Ben, ils sont partis. Ils t'ont pas condamné? Non, ils m'ont pas condamné. Bien moi, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Noli ambios peccare. Ne pêche plus. Et la contrition, mais ne pêche plus. Il lui a pas dit, bon, je ne te condamne pas, tu peux aller, comme si elle pouvait en définitive continuer à vivre dans l'adultère. Mais maintenant, c'est cela qu'on fait. Vous voyez la pastorale des divorcés, la pastorale des homosexuels, la pastorale de, que sais-je, toutes des prostituées. Et, on ne les convertit plus. On ne veut pas convertir, on veut simplement la faire prendre conscience de certaines situations dans lesquelles ils se trouvent. Mais on ne cherche plus à les convertir. Pourquoi ? Parce qu'on estime que chacun a le droit, est libre de choisir ce qu'il veut croire et ce qu'il veut faire. C'est un principe libéral absolument faux qui détruit notre société. Et ce principe est en train d'intervenir dans l'Église. Alors nous voulons suivre notre Seigneur, nous voulons reconnaître notre Seigneur comme la vérité et lutter contre l'erreur. Mais lutter contre l'erreur, ça ne veut pas dire lutter contre ceux qui sont en erreur, ça veut dire convertir ceux qui sont en erreur pour les amener à la vérité. C'est ça l'esprit missionnaire. Il n'y a plus d'esprit missionnaire. Si tout le monde est sur le même pied. Et ceci est même, vous voyez, dans les familles chrétiennes maintenant, hélas, on voit facilement dans les familles chrétiennes des parents à table avec un de leurs ménages qui se conduit bien, qui a des enfants, qui n'a pas de problème, et puis deux jeunes là, qui sont en concubinage sont là. Table, comme les autres, et puis un autre qui est divorcé et qui a sa compagne aussi, voilà, ma foi, il n'y a pas de différence, c'est la même chose, celui qui est bien, celui qui est divorcé, celui qui est en concubinage, oh, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, mais on n'a pas le droit, c'est manquer de charité vis-à-vis de ces jeunes. Si on les traite exactement comme celui qui se conduit bien, ça leur donne l'impression qu'après tout, bien se conduire, mal se conduire, pas pour l'important, c'est la même chose. Eh bien non, c'est pas la même chose pour leurs âmes. Ils vont perdre leurs âmes, ils vont se damner s'ils continuent à vivre dans le péché publiquement comme cela. Il faut leur faire remarquer. Et par conséquent, ils vont éventuellement leur dire, je ne veux pas recevoir à ma table des jeunes, des enfants qui se conduisent publiquement dans le péché contre la loi de notre Seigneur Jésus. C'est pour votre bien que je fais cela. C'est déchirant pour les parents, mais c'est pour votre bien. Pour que vous soyez sauvés, pour que vous sauviez vos âmes. Sinon, ça leur donne l'impression qu'ils sont dans le même cas que celui qui se conduit bien. On leur fait du tort. On fait du tort. Ils vont continuer. Ils vont rester comme ça. Et puis, il y a un accident de voiture. Et voilà, bon. Enfin, quand on pense qu'ici, dans la ville de Sion, dans une paroisse, un curé a donné une bénédiction à des personnes qui vivaient en concubinage. Parce qu'ils ne pouvaient pas se marier, parce qu'il y en avait l'un d'eux qui était divorcé. Alors il y avait un divorcé, et puis une autre partie qui vivait avec cette divorcée. Et on a fait une petite cérémonie à l'église pour bénir ce concubinage. Comment voulez-vous qu'il y ait encore la réaction au péché? Comment voulez-vous qu'il y ait encore la notion du péché? C'est fini. Et cela, c'est depuis le Concile, cette idée que toutes les religions sont bonnes. Si toutes les religions sont bonnes, toutes les morales sont bonnes aussi. Parce que chaque religion a sa morale. Alors si toutes les morales sont bonnes, il n'y a plus de distinction entre le péché et ce qui n'est pas péché. Et cela, nous ne pouvons pas l'admettre. C'est propre du catholique. Le propre du catholique, de résister à l'erreur, de ne pas vouloir se laisser entraîner dans l'erreur, et de ne pas vouloir faire le péché, de s'éloigner du péché pour vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est pour ça qu'il m'est arrivé dernièrement de dire maintenant que, après tout, la société d'aujourd'hui, et la société catholique et les clercs aujourd'hui, sont atteints du sida. Qu'est-ce que le sida? Sida, dit-on, moi je ne suis pas docteur, mais on dit que c'est une personne qui n'a plus de défense, qui ne réagit plus contre les maladies. Or, nous sommes toujours attaqués par des microbes, toute la journée, toute notre vie. Il y a des microbes qui essaient de pénétrer en nous, n'est-ce pas, par tous les moyens. Un bon organisme, sain, réagit. Il est tout le temps en lutte contre ceux qui voudraient détruire notre organisme, toujours en lutte, combat, toujours. Mais celui qui est atteint du sida ne combat plus. Son organisme ne combat plus. Alors évidemment, la maladie se développe en lui, il est comme impuissant devant la maladie, et au bout d'un an ou deux, son corps se corrompt complètement, ravagé par la maladie. Eh bien, c'est le sida spirituel qu'ont aujourd'hui nos clercs et nos catholiques, aujourd'hui les catholiques modernes. Ils ne réagissent plus devant l'erreur et devant le péché. L'erreur n'a pas d'importance. Vous voyez, regardez Assise. Tous les gens qui étaient dans l'erreur ont été traités de la même manière que ceux qui étaient dans la vérité. Or, tout bien, si nous regardons la morale de tous ces gens-là, si on leur avait demandé quelle était la morale de chacune de leurs religions, on aurait bien été épouvanté. Et donc, ceux qui sont même aussi, qui désobéissent à la voix du bon Dieu, sont traités comme ceux qui obéissent à la voix du bon Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas catholique. Le catholique réagit contre l'erreur et il cherche à convertir. On traverse les nerfs pour aller convertir les gens qui sont dans l'erreur, qui sont dans le péché. On leur donne la grâce par le baptême et par les sacrements pour les convertir, pour les faire aller au ciel, pour les unir en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes encore des catholiques saints qui réagissez à l'erreur et au péché. Je vous en félicite. C'est la santé de l'Église. Si nous sommes tous atteints du sida spirituel, l'Église va disparaître. Il faut réagir contre l'erreur et contre le péché. Pourquoi ? Je vous félicite de tout cœur de suivre des prêtres qui demeurent encore fidèles à la foi catholique. Votre Église est consacrée à la Sainte Famille, elle ne pouvait pas avoir un plus beau titre, la Sainte Famille. Parce que c'est des familles chrétiennes qu'est l'espoir du sort, l'espoir de l'Église. C'est dans les familles chrétiennes, catholiques, que se forgent les futurs bons foyers et aussi les futures vocations. Et grâce à Dieu, c'est une grande joie pour nous, pour M. le curé, pour les prêtres, les cônes et pour tous les séminaristes, lorsqu'ils voient le nombre des enfants aujourd'hui de nos familles traditionnelles. Des enfants. Magnifique, splendide. C'est ça l'Église. Et bien élevé, bien éduqué, voilà l'Église. Et c'est de cette famille chrétienne que sortiront les bons foyers et les bonnes vocations. Il faudra penser, faire des écoles, vous y avez déjà pensé, il faudra continuer. Car il ne suffit pas de faire des chapelles, il faut les remplir et les remplir de bons chrétiens. Et que les chapelles continuent à être fréquentées par les générations qui suivent, n'est-ce pas? Voilà ce que nous demandons aujourd'hui au cours de cette Sainte Messe, que bon Dieu vous bénisse et fasse en sorte que la crise de l'Église disparaisse, finisse. Que nous retournions vraiment à la foi de toujours. Que ceux qui ont dévié, que ceux qui ont changé nos églises et nos autels, remettent les autels comme ils étaient autrefois et reprofessent la vraie foi catholique. Voilà ce que nous devons demander dans nos prières, afin que l'Église renaisse et que l'Église se développe à nouveau comme elle le faisait autrefois, au nom du Père et du Saint-Esprit.